Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Wendel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h et dans un instant, il y aura le journal de la culture. En studio ensuite avec nous, le réalisateur Nicolas Vanier qui est descendu de son traîneau pour nous parler de son dernier roman, qui s'appelle Polly. Il y aura son portrait inattendu évidemment par Hélène Manarino. Et puis dans les indispensables de la musique avec la chanteuse Soko et un récit de guerre, totalement dingue. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Wendel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, journal qui débute Hélène par le départ du directeur de l'Opéra de Paris.
Stéphane Lissner était à la tête de cette institution depuis 2014. Il mettra fin à son mandat plus tôt que prévu. Il devait quitter l'Opéra en juillet 2021, mais il partira en décembre prochain. Alors la raison, la situation extrêmement compliquée suite à la crise sanitaire. L'Opéra de Paris affiche aujourd'hui 40 millions d'euros de dettes. Son successeur s'appelle Alexander Neff. Il va donc avoir toute la liberté pour, je le cite, redresser l'opéra à genoux. La situation économique exige des prises de décisions drastiques et immédiates. Alors l'établissement fête ses 350 ans. Toute l'année a été très compliquée, notamment, vous savez, avec la réforme des retraites.
Ouais, conflit.
Exactement. Ouais. Des travaux de rénovation auront lieu également cet été dans les deux salles. L'Opéra Bastille ouvrira le 24 novembre et le Palais Garnier à la fin décembre. Tous les spectacles sont annulés d'ici là. Une part de rémunération des artistes est assuré. Tous les chanteurs, par exemple, seront payés jusqu'au 15 juillet, entre 25 et 30% de leur cachet. Stéphane Lissner rejoint le théâtre San Carlos de Naples en tant que directeur artistique.
Le festival de Lacoste maintient son édition 2020.
Au cœur du Luberon, festival d'art lyrique et de théâtre, il se tiendra comme convenu du 12 au 22 août. Il célébrera ses 20 ans. Créé par Pierre Cardin, ce 20e anniversaire accueillera donc des invités de qualité. Gérard Depardieu, qui interprétera le répertoire de Barbara, Andrea Bocelli reprendra des grands airs d'opéra. Marie-Claude Pietragala est également annoncée. Alors le festival respectera évidemment toutes les consignes sanitaires. Les spectacles se déroulent dans un théâtre en plein air de 1000 places. Et du 1er au 7 août, donc juste avant, un cinéma en plein air sera proposé avec une rétrospective des grandes comédies musicales présentée par Patrick Poivre d'Arvor.
Alors tout n'est pas maintenu aux États-Unis en dépit des prises de position des uns et des autres. Et c'est le cas notamment du célèbre festival de musique Coachella.
Ainsi que Stage Coach Country Music Festival. J'ai enchaîné 5 mots en anglais ce matin.
Bravo, merci.
Cours d'anglais du confinement d'Hélène Manarino.
Exactement. Il se déroule en Californie. Ils étaient initialement reportés d'avril à octobre en raison de l'épidémie du coronavirus. Ils sont officiellement annulés. Les responsables se disent préoccupés par les indications selon lesquelles le Covid-19 pourrait s'aggraver à l'automne. Alors à Coachella était attendu cette année Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Aya Nakamura et le DJ français Madeon.
Les Doors, héros d'une bande dessinée.
You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side.
À l'occasion du 50e anniversaire du mythique album Morrison Hotel sorti en 1970, le groupe va faire l'objet d'un roman graphique qui retracera l'histoire de cet album avec le contexte historique de l'époque comme la guerre du Vietnam, la conquête de la Lune, les meurtres de Charles Manson. Alors Jim Morrison et les trois autres membres seront donc réunis dans cette bande dessinée sortie prévue en octobre 2020. La couverture de l'ouvrage est inspirée de la pochette du disque. Les deux membres restants du groupe, Robbie Krieger et John Densmore, participe à l'élaboration de ce projet. L'impact des Doors sur la société et l'univers musical seront aussi mis en lumière.
Et alors Hélène, vous allez nous annoncer à présent un lauréat, le meilleur guitariste rock de tous les temps.
C'est Philippe Wendel.
Tu parles.
Oui. Qui a été élu par le magazine Total Guitar. Il s'agit de Brian May, le guitariste d'un célèbre groupe, Queen. Il est donc devant Jimi Hendrix et Eric Clapton.
On l'entend à peine, ça gratte dans cet extrait.
Si, quand même, on l'entend, voilà. Évidemment. C'est grâce à la guitare que cette musique est si forte.
Voilà.
Alors, il est donc devant Jimi Hendrix et Eric Clapton. Les 170 noms étaient répartis en 6 catégories, classique rock, blues, heavy metal. Brian May ne s'y attendait vraiment pas. Il se dit très touché, tout en affirmant qu'il ne se fait aucune illusion et qu'il est loin des grands guitaristes. Pour lui, Jimi. Hendrix est toujours numéro 1. Le magazine Rolling Stones avait également fait ce genre de classement en 2003 et 2011. Jimi Hendrix était premier à chaque fois. Brian May, 39e, puis 26e. Tout est relatif, donc.
Et puis deux salles, deux ambiances. On termine par un petit clin d'œil s'il n'y est Salvatore Adamo.
Et oui, Philippe, un clin d'œil qui va vous faire sourire avant le week-end. Vous connaissez la chanson « Mes mains sur tes hanches » sortie en 1965. Grand succès de Salvatore Adamo. Figurez-vous que le chanteur belge, très actif sur les réseaux sociaux pendant le confinement, a décidé d'offrir une version geste barrière pour cette chanson. Je vous laisse écouter.
Mais non, pas de mains sur tes hanches, ne me pousse pas à l'infraction. Oui, tu auras ta revanche quand nous aurons la permission.
Voilà, pas de main sur les hanches. Geste barrière, l'humour belge. Voilà, très drôle pour passer un bon week-end.
Merci beaucoup, Hélène. À tout à l'heure pour votre portrait. Attendez, vous ne partez pas au week-end. Hein.
Ah non, non, je suis là.
Vous serez avec
pas.
Nous.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Nicolas Vanier.
Bonjour, Nicolas Vanier.
Bonjour.
Vous êtes aventurier, écrivain, réalisateur. On vous doit notamment le film Belle et Sébastien qui était sorti à Noël 2013 et qui a connu le succès qu'on sait. Belle et Sébastien sont des personnages qui avaient été créés par Cécile Aubry dans les années 60 et vous récidivez avec Polly. C'est un roman qui préfigure un film. C'est même écrit sur la quatrième de couve. Et là encore, 50 ans après, vous revisitez les aventures de Polly, l'histoire d'une amitié entre un poney et un petit garçon. C'est un feuilleton qui a fait les beaux jours de l'ORTF. Séquence nostalgie, Polly, c'était ça.
Polly, Polly, polisson, saute par monts et vallons, danse, danse dans les prés, comme un petit feu follet.
Pourquoi avoir eu envie de reprendre l'histoire de Polly, Nicolas Vanier?
Ben, la boucle va être ainsi bouclée, puisque effectivement Cécile Aubry a bercé en tout cas une partie de mon enfance et celle de beaucoup de gens de ma génération avec Belle et Sébastien. Et elle avait donc aussi écrit cette jolie histoire entre donc cette fois-ci un petit garçon, Mehdi encore, et un poney. Donc j'avais envie de, voilà, de redonner vie à cette histoire qui m'a, elle aussi, tout comme Belle et Sébastien, beaucoup touché à l'époque, en la remodernisant, en reprenant un petit peu l'ADN, bien évidemment, comme Belle et Sébastien de la série, mais en la modernisant.
Alors justement, ce ne sont plus les aventures d'un petit garçon, mais d'une petite fille. Pour quelle raison ?
Ben justement, parce que quand je dis moderniser, c'était redonner de la couleur, de la vie, de la joyeuseté à tout ça. Belle et Sébastien,
attendez,
garçon.
Vous dire que, donc les filles sont plus joyeuses que les garçons?
Non, mais Belle et Sébastien, c'était un petit garçon. Je trouvais ça joli. J'avais envie de ça. Je trouvais que, en plus, la relation des jeunes filles avec les chevaux en particulier, mais avec les animaux d'une façon générale, et moi je l'ai vécu par exemple avec les chiens de traîneau, est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a toujours quelque chose de plus qu'une relation d'un homme à un animal, d'un petit garçon à un animal. Pourquoi ? C'est difficile, ça fait partie de ces choses difficiles à expliquer, mais qui font que, par exemple, on se demande pourquoi la plus grande mecheuse du monde était une femme. Mmh. Ben, c'est parce que, justement, il y a encore un petit peu plus, peut-être, de compréhension du monde animal par la gente féminine que par les hommes.
La petite fille s'appelle Cécile et sa maman Louise. Ça se reconnaît peut-être au prénom parce que l'histoire se passe en 64. Et pourquoi ce choix des années 60? Pourquoi ne pas avoir actualisé l'histoire?
Bien, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir lorsque j'ai projeté pour la première fois il y a quelques jours le film. C'est quelqu'un en sortant qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé en 30 ou 40 ans pour qu'on soit devenu aussi triste ?» Il faisait référence à la couleur de ces voitures qui sont dans le film, à la couleur des vêtements,
c'était visuel.
À la couleur finalement du film. Donc c'est à la fois visuel, parce que c'est vrai qu'un film c'est de l'image et que j'aime la couleur. Et Dieu sait si la couleur dans le Gard où on a tourné, elle est rayonnante au printemps. Et aussi pour avoir ce petit côté nostalgique, forcément, que nous avons à l'évocation de cette histoire, qui est celle de Polly des années 60.
Moi, j'avais une autre hypothèse. C'est comme, on ne va pas tout spoiler, mais elle fait une fugue. Il fallait qu'il n'y ait pas de portable, pour qu'on ne sache pas où elle est.
J'ai pas pensé une seule seconde à ça. Je crois que la première raison, elle est effectivement artistique. Et elle se justifie complètement quand on voit les images.
Et puis aussi que vous êtes nostalgique des années 60, et notamment de cette émission.
Salut les gars!
Vous l'écoutiez ou pas?
Oh, ça fait partie des choses comme
Vous
tout
étiez
à
trop
chacun
jeune,
que...
vous êtes né en 62, vous étiez trop petit pour écouter cette émission.
Oui, mais je me souviens de la reprise à la radio. Enfin, ça m'évoque quelque chose, bien évidemment, oui.
Voilà.
Comme ça, je pense, évoque beaucoup d'entre nous.
Ouais. C'était pas tout à fait sur Europe 1, c'était sur Europe numéro 1. Séquence Nostalgie, vous restez avec nous, Nicolas Vanier. Il y a Hélène Manarino qui arrive.
C'est Nicolas Vanier qui est notre invité. Vous êtes un aventurier, Nicolas Vanier. Bien, ça tombe bien, car c'est une véritable aventure que vous allez vivre dans un instant en découvrant votre portrait inattendu, dressé par notre enquêtrice hors pair, Hélène Manarino. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Vous connaissez Hélène Manarino, Nicolas Vanier ?
Malheureusement, oui.
Oh, quel accueil !
Merci Hélène, à lundi.
Moi, j'ai adoré travailler avec vous, merci.
Hélène, c'est à vous.
Bonjour Nicolas Vanier.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler des choses complètement inédites de votre vie. Alors, on va vivre de grandes expériences ce matin grâce à vous. Explorez votre vie et vous allez voir que ça colle parfaitement avec ce portrait parce qu'il va y avoir beaucoup de choses inattendues. Alors, je fais monter un petit peu la pression, mais tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, alors je ne dirai pas. Vous avez de la chance de faire ce que vous faites parce que cela vous agace énormément. Et lorsque l'on vous dit ça, vous répondez « ce n'est pas de la chance, j'ai galéré pour y arriver ». Alors vous avez mis toutes vos chances de votre côté, vous avez tout exploré. Rien d'étonnant que votre héros est Ernest Shackleton, grand explorateur. Alors vous n'aimez ne rien manquer, vous vous êtes toujours levé vers 6h30. Attention, jamais sans un café. Vous êtes capable d'apporter le vôtre vous-même d'ailleurs pour ne jamais manquer le lever du soleil puisque pour vous, manquer le lever du soleil, c'est comme manquer un rendez-vous. Alors, explorons, même s'il est 10h20, le rendez-vous est là. Alors, on va commencer par l'enfance pour tout comprendre. Une enfance bercée par Pierre et le Loup ou par le violon de votre papa. Nicolas Vanier, vous avez eu beaucoup de vocations. À l'âge de 4 ans, vous vouliez être coiffeur, puisqu'il y avait un coiffeur en face de chez vous. Et lorsque votre maman vous demandait pourquoi, vous lui répondiez « pour être toujours près de toi ».
C'est mignon.
Oui, c'est
vrai.
C'est vrai.
Puis il y a eu l'envie de conduire des deux chevaux, d'observer la vie. Elle vous passionnait et vous passionnait aussi les gens, puisque lorsqu'il vous voyait petit, il demandait très souvent « est-ce que cet enfant est à vendre ?» Pour explorer, il fallait bouger et vous n'avez jamais perdu de temps. Dès l'âge de 6 ans, il fallait en permanence vous défouler. Ça se passe, vous faisiez des tours de pelouse dans un parc près de chez vous. Votre maman calculait votre temps de course pour faire un tour de parc, mais elle vous avouait plus tard qu'elle oubliait des secondes. Vous étiez très déçu. Alors vous ne reculiez devant rien, comme un vrai aventurier. Lorsque vous aviez envie de faire pipi, on vous a conseillé de le faire près d'un banc dans un parc tourné vers la pelouse. Vous l'avez fait près d'un banc dans un parc, mais tourné vers trois dames assises sur ce banc.
Ouais. C'est une psychanalyse là. Hein. Tout ça est authentique.
Je ne sais pas comment on peut interpréter ça, mais c'est authentique.
C'est authentique. C'est authentique.
Je suis obligé de l'avouer.
Voilà. Vous aviez 6 ans. Alors, il ne fallait pas vous contrarier, Nicolas Vanier. L'envie de découvrir absolument tout vous a dirigé vers une passion pour les poissons. Au parc de Marly, vous découvrez les poissons dans les bassins. Vous aviez donc accroché chez vous un morceau de viande sur un arbre pour récolter des petits asticots et donc pour pêcher les poissons. Une fois pêchés, il fallait emmener ces poissons en Sologne, votre endroit de cœur, et vous vous arrêtiez à chaque station-service pour changer l'eau. Alors c'est votre premier amour avec la nature, finalement, grâce à votre grand-père et sa maison en Sologne, justement, ce qui aujourd'hui vous permet de reconnaître quel type de bois faut-il couper en forêt, par exemple, et ce qui a développé votre passion pour la pêche à la mouche que vous pratiquez aujourd'hui. Leader et sans crainte, tout va bien ?
Tout va bien.
Leader et sans crainte, vous emmeniez également vos frères dans un mirador en pleine nuit alors que vous dormiez chez votre grand-mère et elle ne savait absolument rien. Alors Nicolas Vanier, ce côté touche-à-tout vous a toujours poursuivi comme votre âme d'enfant puisque vous n'êtes jamais séparé de votre doudou.
Non,
vous êtes chez vous. Doudou ?
Bah bien sûr qu'il faut garder un doudou.
Ah bon ? C'est quoi votre doudou ?
Bah, c'est un espèce de petit chien, évidemment, et donc on ne peut pas le mettre à la poubelle. Quand on le retrouve, on le garde. Impossible de mettre ça à la poubelle.
Incroyable.
Bah oui.
Et vous partez en expédition avec ?
Non, mais j'ai emmené d'autres chiens, des vrais, cette fois-ci.
Vous êtes un fou de glace à la vanille et vous avez même trouvé une astuce pour en faire vous-même. Sucre en poudre, lait en poudre, cacao et de la neige. Et puis aussi passion petit oursin à la guimauve. Revenons à vos passions. Option couture au bac. Et oui, malin, tout le monde prenait le sport. Comme ça, vous avez été remarqué. Et vous avez d'ailleurs eu 20 sur 20.
C'était génial parce qu'il y avait, je sais pas, on était une quinzaine à attendre, 14 filles et moi, et c'était une femme d'un certain âge, très sévère, elle saquait toutes les filles, et puis moi elle me voit arriver, alors je vois le coup venir, mais qu'est-ce que vous faites là ? Alors je dis, moi je considère que la couture n'est pas... Alors, qu'est-ce que vous savez faire ? Alors que les autres, c'était qu'est-ce que vous savez pas faire ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Donc je savais faire 3 trucs. Formidable ! Allez, 5 sur 5 !
Et aujourd'hui, vous faites le manteau et les mocassins de vos enfants. Alors musicien aussi, avec vos groupes de musique, avec vos copains, bon, vous chantez comme une casserole.
Catastrophe.
Mais c'est une catastrophe.
Moi j'étais à la guitare.
Et voilà, ah oui. Vous étiez à la guitare.
Et tout le reste, alors ce qui était incroyable, c'est tout le reste du groupe, c'était des gens extrêmement talentueux, qui sont tous devenus professionnels. Et moi, il me gardait parce que je mettais de l'ambiance, j'étais sympathique, mais j'étais nul.
Oui, mais vous aviez nul.
Mais vous repreniez, par exemple, ce genre de choses. Eh oui, les Dire Straits. Vous faisiez des spectacles aussi pour vous faire des sous. Et justement, on y vient. Pour sortir avec vos amis et avoir de l'argent en poche, encore une fois, vous tentiez tout. Vous vous rendiez systématiquement au casino avant chaque sortie entre amis pour jouer le rouge ou le noir. Et vous gagnez absolument tout le temps. Une chance qui ne vous a jamais quitté. Un jour, vous deviez boucler un budget important. Il vous manquait une grosse somme d'argent. Qu'avez-vous fait ? Vous avez fait un aller-retour à Monaco. Vous avez joué toute la première partie de la somme et vous avez tout misé sur une couleur et vous avez gagné, Nicolas Vanier. Alors, une vie trépidante avec des prises de risques, on le sait, mais surtout beaucoup de bêtises. Vous êtes redoutable encore aujourd'hui pour vos enfants. Partir avec vous en vacances ou passer une soirée rien qu'avec vous, c'est synonyme de fête, bêtise, canular. Vous leur racontez des histoires de crocodiles qui mangent les enfants avant qu'ils se couchent pour ne pas qu'ils s'endorment. Bref, imprévisible. Et en parlant de bêtises, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se replonger dans l'internat. Vous avez, attention, été capable avec vos amis en pleine nuit de rapatrier d'un champ 50 moutons pour les faire monter dans les escaliers de l'internat. Oui, 50 moutons, bravo. Wow. D'enfermer un camarade dans un congélateur et puis...
C'est vrai ? Non, c'est vrai, j'étais au lycée agricole du Chénois près de Montargis parce que je voulais reprendre la ferme de mon grand-père, ouais, où j'habite aujourd'hui. Et on va visiter une ferme juste à côté de l'internat. Et l'agriculteur nous explique qu'il y a, comme dans tout troupeau de moutons, ce qu'on appelle une bréhaigne, que les moutons suivent. Et il nous explique partout. Là, tous mes copains me regardent et me disent qu'il va forcément avoir une idée. Et donc, à 2h du matin, on a été chercher donc la bréhaigne. Tous les autres moutons ont suivi. On a monté les escaliers, ça dérapait, ça faisait un bruit.
Non, mais moi, je
et
vois.
On les a mis dans le dortoir des filles.
D'accord.
Et on a
c'est
bien
pas
rigolé.
Sympa. Alors, Nicolas Vanier, quand même, on va parler quand même d'un canular parce que nous avons, chers auditeurs, pardon, devant nous, l'auteur d'un des plus grands canulars de l'histoire, on peut le dire. Eh oui, votre frère a toujours aimé se faire des contacts. Il habite en Belgique et par différentes alliances, vous connaissez quelqu'un qui a un lien avec la famille royale de Belgique. Lors du mariage royal de la princesse, vous avez dit à votre frère « Je suis invité au mariage, je ne veux pas y aller, vas-y à ma place ». Et pendant un mois, il s'est préparé. Vous lui avez mis une pression incroyable. Achat d'un smoking, coiffeur. Pendant un mois, il s'est préparé avec sa compagne jusqu'au jour J. Ils ont acheté des vêtements, ils se sont fait coiffer. Le jour J, ils sont prêts. Ils ont décidé de faire une photo avant la grande cérémonie. Puis là, ils tiennent une pancarte, ils la retournent avec cette phrase. C'était écrit « Je me suis fait baiser par mon frère. Tout était faux, Nicolas Vanier. Vous n'avez jamais été invité à ce mariage. Mais... » Et votre frère y a cru jusqu'au
c'est
bout.
Oui, ça a duré 2 mois l'histoire. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais réservé un grand restaurant parce qu'ils étaient en smoking, ils avaient lavé la voiture, etc. Ouais, donc, ils ont été dans le restaurant. Mais mon frère m'en a jamais voulu. Sa copine de l'époque, énormément. Ils se sont d'ailleurs quittés. J'espère que c'est pas pour ça.
Ah oui.
Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a rigolé ? Qu'est-ce qu'on a rigolé ?
Ils viennent nous envoyer un message sur europe1.fr.
Ils sont quittés pour ça.
Voilà.
Merci Hélène Manarino et bravo Nicolas Vanier. Vous restez avec nous, Hélène, on vous retrouve lundi.
Belle enquête, bravo. Merci.
C'est Nicolas Vanier qui est notre invité. Avec lui, dans un instant, on va découvrir nos indispensables du jour. On parlera d'une chanteuse française avec un nom aux accents japonais, Soko, et d'un roman bien japonais, celui-là, d'Hiro Onoda, présenté par Bernard Porrette sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est Nicolas Vanier qui est notre invité, on va revenir à son actualité, Philippe, dans un instant. Tout de suite, on parle musique avec Angèle Châtelier.
Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe.
Aujourd'hui, c'est l'actrice et chanteuse Soko, ça s'écrit S-O-K-O, qui revient avec un nouvel album.
Oui, il y a Soko, l'actrice, dans À l'origine de Xavier Giannoli, par exemple, rôle pour lequel elle a été nommée au César en 2010. Et puis il y a Soko, la chanteuse, l'artiste et sa musique inconstante, habile et angélique. Ce troisième album s'appelle Feel Feelings, ressentir les choses, les sentiments. Et Soko les ressent, au point qu'elle ne veut pas en faire la promotion sur ses réseaux sociaux aujourd'hui. Et elle a décidé de le sortir uniquement en France, en physique. Elle qui habite aux États-Unis depuis 10 ans, ça lui paraît dérisoire de parler d'elle pendant que le pays est en feu. Et tandis que la crise nous pousse à ralentir, à réfléchir, ce qu'elle a fait pour ce nouvel album qu'elle a terminé il y a 2 ans. Soko a longtemps été fugitive de ses propres pensées et angoisses, en proie aussi un sérieux syndrome de l'imposteur. Cette voix intérieure qui vous dit que vous ne valez pas ce qu'on vous donne, que ce que vous faites est insignifiant. Et pour contrer ça, Soko a eu 2 déclics. Le premier, c'est une soirée avec des copines. Et le second, une thérapie intensive dans un institut pendant 1 semaine, sans famille, sans amis, sans téléphone, juste soi. Tout ça, elle me l'a raconté.
Ça parlait aussi de ne pas aller cacher ses émotions dans des distractions. Moi, une de mes distractions principales, c'était que j'avais l'impression que j'avais de la valeur, que si j'étais aimée de manière romantique, et que après avoir fait ce travail, je me suis dit que j'avais plus besoin de ça en fait, que j'avais pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour me dire que j'avais de la valeur. Et c'est super, et en fait je suis sortie de là mais complètement planante et surtout hyper motivée et hyper à fond en train de me dire ok, je vais faire mon album sans distraction. Un jour, j'étais à une soirée chez une copine et on était juste... C'était que des meufs, c'était que une soirée de meufs. Et il y a une chanson d'une des meufs qui était là, qui est passée dans la playlist que quelqu'un avait mis. Et j'étais là genre, oh putain c'est la chanson. Et elle me fait, oh je l'adore cette chanson. Et j'ai fait genre, hein? Mais moi, si ma chanson elle passait là, je serais sous la table en train de pleurer ou juste je prendrais mon sac et je me dirais, bon bah ça va, c'est hyper humiliant, pourquoi vous faites ça? Je me casserais. Et je me suis dit, mais c'est elle qui a raison. Pourquoi moi je fais de la musique que j'aime pas écouter? Et du coup, ça m'a complètement conditionnée pour faire cet album de manière complètement différente. Ce nouvel album de Soko, c'est 12 titres qui parlent autant d'acceptation de soi, de ses envies que de violence conjugale. Et alors que cet album était mixé, Soko est devenue mère aussi. Sur le morceau qu'il ponctue cet album, elle a ajouté sur le tard un son bien particulier. C'était celui des battements du cœur de son bébé.
Oh non, il est speed, hein, il a envie de vivre le bébé. Hein. Soko donc et son nouveau disque qu'on peut dès maintenant trouver en vrai, en dur chez les disquaires et en streaming dès le 10 juillet. Merci beaucoup Angèle Châtelier. Nicolas Vanier, vous écoutez quoi comme musique?
Les oiseaux.
C'est une jolie musique.
Ouais. Non, mais j'écoute très peu de musique. Hein. Ouais. Et c'est vrai que
et vous
pendant
jouez plus
cette période extraordinaire du confinement où j'étais chez moi en Sologne, à cette époque extraordinaire du printemps, avec ce ciel sans avion, ces routes sans voiture, la musique des oiseaux au printemps, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'autant plus que il faut avoir conscience combien c'est précieux, parce que demain, on n'aura peut-être plus de musique des oiseaux. On a perdu un tiers des oiseaux, un second tiers va disparaître. Est-ce qu'on va être capable de sauver le dernier tiers? Vous disiez tout à l'heure que cette période nous avait permis de réfléchir et de ralentir. mais tout reprend de plus belle. Est-ce qu'on va savoir tirer les enseignements de tout ça? J'ai pas l'impression.
On marque une pause pour méditer là-dessus.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Nicolas Vanier qui est notre invité ce matin. Avec lui, Philippe, on découvre le livre choisi par Bernard Poirette qui nous a rejoint.
Bonjour Bernard Poirette.
Bonjour
Philippe. Je viens de vous étirer, mais vous allez nous parler d'un livre, ça s'appelle Au nom du Japon. Ce sont les mémoires d'un militaire, un lieutenant japonais qui a vécu caché dans la jungle aux Philippines. Racontez-nous ça.
Absolument, il a vécu 29 ans dans une petite île des Philippines qui s'appelle Lubang. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, c'est terminé, donc il est en poste là-bas en 1945. Il ignore complètement, il est avec d'autres camarades, il ignore complètement que le Japon a perdu. Et pour lui, puisqu'il a eu des ordres de tenir la position, il tient la position.
Dingue.
Terminé. Et donc, il se retrouve pendant 29 ans avec trois types, enfin, ils sont trois au total. Alors, les deux autres meurent, parce que le problème, si vous voulez, c'est que ces gens-là, qui n'ont pas été les seuls, hein, il y en a eu d'autres, enfin, il y a eu une poignée de derniers soldats fous comme ça qui pensaient que le Japon impérial pouvait gagner et allait gagner, puisque c'était écrit comme ça. Donc ils sont trois au départ, puis deux, puis un, parce qu'ils sont tués par les forces militaires des Philippines, parce qu'ils vivent en fait sur l'île, ils font des rapines, ils viennent voler dans les fermes, ils tuent du bétail pour survivre, parce qu'il n'y a rien à bouffer dans la jungle, etc. Et donc les soldats les traquent, les tuent, ils en tuent deux, et il en reste un, Hiro Onoda. Donc, alors il est tout seul, pendant des années et des années, il est tout seul. Et le monde entier sait qu'il est là. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que les Japonais lui envoient des signes en lui disant « la guerre est finie ». Ils lui parachutent des journaux, par exemple. Ils lui parachutent des photos de sa famille qui s'est agrandie avec son frangin, avec ses parents. Et même le frère vient sur place. Il part dans la jungle avec un mégaphone et lui dit « Hiro, sors de la jungle, c'est fini, la guerre est terminée ».
Mais attendez, c'est une histoire vraie.
Mais c'est une histoire vraie,
c'est
bien
dingue.
Évidemment. C'est pas un roman, c'est sidérant. Wow. C'est la première fois que c'est traduit en français, donc c'est sorti au Japon, parce que finalement, en mars 1974, il arrive finalement à se rendre parce que l'officier supérieur qui en 1945 lui a donné l'ordre de tenir la position revient lui dire que c'est fini et qu'il peut arrêter la guerre. Mais lui dit tant que l'officier m'a pas dit, je continue. Délirant. Mais c'est délirant. C'est une histoire de cinglé. Il rentre au Japon, héros national. Le Japon tout entier adule ce type-là qui a tenu la position pendant 30 ans tout seul dans la jungle en disant que le Japon allait gagner. C'est un livre absolument fascinant qui n'a jamais été traduit en français, qui vient de l'être, qui m'a beaucoup fait penser au film de John Boorman qui s'appelle Duel dans le Pacifique avec Lee Marvin et Toshihiro Mifune, qui sont les deux derniers soldats, un américain et un japonais, qui se tapent dessus pendant des années après la fin de la guerre. C'est sorti à la manufacture de livres. C'est un petit livre admirable parce que c'est la chronique de la folie humaine. Et alors, en plus, si vous ne connaissez pas le Japon et l'état d'esprit de ce pays très particulier, en lisant Au nom du Japon de Hiro Onoda, vous en saurez un rayon. Ça, je vous garantis. C'est fascinant, ce bouquin.
Nicolas Vanier, commentaire.
Oh, ça donne envie. Hein,
ouais.
et ça me fait penser à votre histoire que vous venez de me raconter, finalement. C'est vous avez tenu la position pendant le confinement.
Absolument.
À exactement.
On était les deux seuls en studio ici, rue des Cévennes.
Oui, mais nous, on savait
avec
ce qui se passait.
Avec
on savait ce qui se passait à l'extérieur.
Oui, oui, oui,
c'est toute la différence. Et juste un mot, il mangeait quoi? Le gars, il était tout seul?
Alors, il
mangeait des rats?
Alors, il mangeait, bon, effectivement, si vous voulez, c'était des soldats qui étaient aguerris, qui avaient été formés à la survie dans la jungle. Donc, je vous ai dit, il volait des cochons, des poules, etc. Il allait piquer du riz chez les paysans de l'île.
Oui.
Mais les paysans savaient qu'il y avait des soldats japonais planqués dans leur île. Ils le savaient.
J'adore.
Ils les voyaient de temps en temps.
Oui.
Mais ils n'osaient pas approcher. Ils avaient des pétards, etc. Ils allaient leur tirer dessus. Enfin, c'est une histoire de cinglé, littéralement. Au nom du Japon, Hiro Onoda, la manufacture de livres.
Ça donne envie.
Merci Bernard Poirette, à très très vite.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Nicolas Vanier sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Une dernière partie de Culture Média avec notre invité Nicolas Vanier qui nous parle, Philippe, de son livre Poli sorti chez Ixo Éditions.
Poli, c'est presque une mise à jour de Poli écrit par Cécile Aubry où elle racontait l'histoire d'un petit garçon et son histoire d'amitié avec un poney. Là, c'est une petite fille. Vous l'avez mise au goût du jour, je ne vais pas raconter l'intrigue, mais en gros, la petite fille, sa maman a quitté son papa, donc c'est une famille divorcée, donc c'est une problématique nouvelle par rapport aux années 60, et puis elle décide de partir à l'aventure, je ne vais pas tout raconter, avec le poney. Et c'est également une histoire qui parle du bien-être animal. Vous avez tenu à ça?
Oui, ça m'intéressait de parler du rapport effectivement à l'animal, à une époque en plus où on parle beaucoup dans les cirques, voilà, qu'il est plus possible d'avoir des lions ou des tigres martyrisés pour le bonheur d'un public qui n'en veut plus, quoi. Donc c'est intéressant.
Les patrons de cirque, je vais me faire leur avocat, disent qu'ils ne sont pas martyrisés.
Oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, avec certaines espèces, comme par exemple le cheval, il est prouvé effectivement qu'il y a une relation plutôt amicale et respectueuse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des grands félins. Donc voilà, il y a tout un débat autour de ça, mais je pense qu'on se dirige de toute façon inéluctablement vers des cirques sans animaux. De la même façon qu'il faut avoir aujourd'hui une réflexion globale sur effectivement le traitement des animaux dans les abattoirs, etc.
Il y a un directeur de cirque, je ne vais pas tout spoiler si je dis que c'est un méchant, il veut transformer Polly, le poney, en saucisson.
Voilà, le directeur de cirque qui est dans le film, un Patrick Timsit extraordinaire, qui justement habite la région dans laquelle on a tourné, qui est extraordinaire, elle aussi, qui est le Gard et les Cévennes.
Et alors j'ai relevé ce dialogue, c'est page 105, ben quoi, c'est Bonnard le saucisson et le boucher, je te signale, c'est mon père. Et alors à ce propos, quand même, le livre est assez bobo, assez politiquement correct, puisque la petite Cécile devient végane avant l'heure. Elle a 10 ans, non, 65, mais elle est déjà végane. Hein. Elle dit « Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je ne mange plus de viande et je n'en mangerai jamais. » Et l'autre lui répond, c'est déjà le dialogue Paris-Province, il lui dit « Écoutez-la, la parigote. »
Non, mais c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est de faire évoluer cette petite fille qui vient de Paris et puis qui découvre cette nature et qui, bien sûr, tombe dans quelques extrêmes.
Non, mais voilà, à l'époque, en 65, non. Personne ne voulait être végane.
Ah, il y avait déjà des commencements d'un petit peu de ça. En tout cas, voilà, ça m'amusait de parler de ça.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous avez cité le nom de Patrick Timsit. En fait, ce livre est surtout tiré d'un scénario d'un film qui va sortir. Il va sortir quand ? Est-ce que vous le savez, avec le confinement ?
Écoutez, a priori, il sort le 7 octobre avec aussi François Cluzet et Julie Gayet et cette petite Cécile qui est interprétée par une certaine Elisa qui est formidable.
Ouais. Tout est tourné,
le film est terminé depuis quelques jours, et donc voilà, si tout va bien, il sort le 7 octobre.
Et alors l'histoire du poney Polly, vous avez raconté quelque part que ça vous rappelle l'autre histoire avec un cheval qui s'appelait Punky dans le Wyoming. C'était qui ce Punky ?
Ben, je me suis effectivement beaucoup inspiré de cette histoire personnelle qui est que je suis parti, moi, pendant un an et demi, traverser toutes les montagnes rocheuses du sud au nord. Et pour ce faire, j'ai acheté à l'époque dans un ranch un cheval qui avait la crinière très très sale que j'ai coupée. Du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé Punky.
Ouais.
Et j'ai donc vécu 24 heures sur 24, des mois durant, sur des milliers de kilomètres, une relation, on va dire, complètement fusionnelle avec ce merveilleux petit quarter horse. C'était absolument incroyable, cette complicité, cette amitié que nous avions, et donc je me suis inspiré bien sûr de cette relation pour Polly.
Il était drôle ? Je veux dire le sens de ma question. Écoutez le sens de ma question. Hier, on recevait Hélène Gâteau, qui s'occupe d'un journal qui s'appelle Dr. Good Veto. Il y a un sondage qui est sorti. 47% des gens préfèrent leur animal, sentent plus de tendresse dans leur animal que leur compagnon, et 39% trouvent leur animal de compagnie plus drôle.
Incroyable.
C'est pour ça que je vous demande s'il était drôle ce cheval.
Moi, non, mais moi je suis pas du tout du genre à vouloir humaniser les animaux, mais c'est vrai que j'ai été témoin au cours de ma vie passée dans la nature et dans la forêt de choses assez insolites d'animaux qui sont en train de jouer. Je me rappelle comme cela d'une loutre que j'ai vue descendre une pente enneigée. Qui est arrivée en bas, a galéré comme c'est pas possible pour remonter. Je me suis dit, elle a décidé de rentrer chez elle pour se refaire la descente. Parce que c'était une descente incroyable. Et elle a recommencé une troisième fois en se décalant. Comme un skieur qui...
Oui, c'est comme si elle faisait du ski avant l'invention du tir-fait.
Et voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a totalement interpellé. Vous parlez de Punky. Je me souviens que parfois, on partait à la poursuite de cerfs et autres. Et je voyais qu'il avait cette même passion qui était la mienne de poursuivre des animaux pour le simple plaisir. Et ça, c'est extraordinaire.
Il me reste une minute, je voudrais avoir votre avis. Je voudrais savoir comment vous avez vécu le confinement. Plutôt, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'écologiste que vous êtes a vu du bon avec ce monde industriel à l'arrêt pendant 2 mois ?
Du bon, oui, mais je pense que le bon, ce serait surtout de savoir tirer les enseignements de cette crise, alors même que je n'entends parler que de croissance pour pouvoir financer
et de déficit.
Les excédents et les déficits et cette dette que nous allons laisser énorme à nos enfants et à nos petits-enfants. Et j'ai bien peur, malheureusement, qu'on change, certes, peut-être quelques petites pièces de la voiture, alors même que c'est le système en entier qu'il faudrait savoir changer pour enrayer les deux problèmes graves que nous connaissons, le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles sur cette planète.
Merci beaucoup Nicolas Vanier. Je rappelle, votre roman Poli, ça sort chez XO Éditions et ça préfigure le film qui va sortir en septembre. Demain, Culture Média, évidemment, sera là. Non,
lundi.
Pardon, c'est Bernard Poiret qui sera là. C'est lundi, Culture Média. Et on sera avec le gagnant ou la gagnante de The Voice. Et puis en deuxième heure, on va recevoir l'écrivain Jean-Christophe Granger pour son livre Le Jour des Cendres. Tiens, les cendres, on en parlait de quelque manière que ce soit. Salut, c'est Linda Costa. À lundi, bon week-end à tous et toutes.
À lundi, Philippe Vandel. Dans un instant, c'est Anne Roumanoff sur Europe 1.